Radio Kapi. Oh, Kapi.
Présenté par Grâce Amzati Massanzi, tout de suite le sommaire. Désormais, toute personne condamnée à la peine de mort sera exécutée. Le gouvernement congolais a décidé de lever le moratoire sur la peine capitale. Les réactions divergent à ces sujets. Restez avec nous. C'est officiel. Le contrat renégocié entre la RDC et le groupement d'entreprises chinoises a été signé par toutes les parties hier à la Cité de l'Union africaine ici à Kinshasa en présence du chef de l'État. Cette nouvelle version consacre une hausse de l'enveloppe destinée aux infrastructures qui passe de 3 à 7 milliards de dollars, nous dira tout à l'heure Sinsa Bachizina Bizana. L'invité de ce journal est le chef de programme Action Mine à RDC. Jean-Denis Soki explique l'objectif et le fonctionnement du tout premier centre à la matière en RDC, mis en place par le service de la lutte anti-mine des Nations Unies UNMAS à Beni, considéré comme épicentre des accidents et incidents liés aux engins explosifs dans le pays. À toutes et à tous, bonjour. Justice pour commencer. Désormais, toute personne condamnée à la peine de mort sera exécutée. Le gouvernement a décidé de lever le moratoire sur la peine capitale. C'est ce qui ressort du Conseil des ministres du 9 février dernier, selon une note circulaire de la ministre de la Justice et garde des Sceaux. Dans cette note adressée le 13 mars au chef des institutions, dont le président du Conseil supérieur de la magistrature et président de la Cour constitutionnelle, le premier président de la Cour de cassation, le procureur général Précette Cour, le premier président de la Haute Cour militaire, ainsi que l'auditeur général des FARDC, Rose Mutombo, demande l'application de cette décision, d'en assurer une large diffusion auprès de leurs offices et en donne les motivations et dispositions juridiques. Le condensé de cette décision avec vous, Jeff Ngoy.
En exécution de cette décision, la peine de mort consécutive à une condamnation judiciaire irrévocable intervenue en temps de guerre sous l'état de siège ou d'urgence à l'occasion d'une opération de police tendant au maintien ou au rétablissement de l'ordre public ou encore pendant toute autre circonstance exceptionnelle sera exécutée. Conformément à certaines dispositions de la loi évoquant les infractions susceptibles de la peine capitale, notamment l'association des malfaiteurs, la trahison, l'espionnage, la participation à des bandes armées, participation à un mouvement insurrectionnel selon le code pénal livre 2. Le crime de guerre, crime de génocide et crime contre l'humanité, disposition relevant du décret du 30 janvier 1940 portant code pénal. Également la désertion à l'ennemi, rébellion, le complot militaire, refus d'obéissance et celle de marcher contre l'ennemi, vol, détournement et destruction méchante sont autant d'infractions évoquées par le code pénal militaire. C'est depuis 2003 que la peine de mort n'était plus exécutée en RDC, quoique prononcée par les juridictions surtout militaire, à cause justement du moratoire qui vient d'être levé. Pour la ministre de la Justice, ce moratoire était malheureusement aux yeux des infracteurs, comme les Koulouna, un gage à l'impunité.
Merci à vous, Jeff Ngoy, pour toutes ces précisions. Venons-en à présent aux réactions de ceux qui saluent cette décision et ceux qui la désapprouvent. Abolitionnistes et rétentionnistes de la peine capitale sont diamétralement opposés sur ce sujet. C'est un recul grave contre les droits de l'homme, une page noire pour les défenseurs des droits de l'homme que nous sommes à ce 21e siècle où les nations du monde sont en train d'abolir la peine de mort. C'est la réaction d'un abolitionniste de la peine de mort, président de la chaire congolaise des droits de l'homme, CCDH. Maître Eloi Mobi Lansem propose aux parlementaires de voter une loi qui puisse abolir de manière définitive la peine de mort en RDC. On l'écoute.
C'est vraiment une page noire pour la République. Nous, en tant qu'activistes des droits de l'homme, nous proposons qu'on quitte les moratoires pour l'abolition totale. Et cela à travers une loi adoptée au niveau de l'Assemblée nationale pour que nous soyons au standard des autres États qui sont en train de promouvoir les droits de l'homme. Puisque la peine de mort, c'est le contraire des droits de l'homme. Et c'est contraire à notre Constitution qui sacralise la vie. C'est un recul inacceptable en matière de droits de l'homme. C'est une violation de nos engagements internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par la République démocratique du Congo.
En revanche, les rétentionnistes de la peine de mort pensent qu'on doit absolument et totalement exécuter la peine de mort qui n'était que suspendue. Selon les groupes des rétentionnistes, le pays connaît des rébellions à répétition à cause de l'impunité et l'exécution de la peine capitale est un moyen dissuasif de commettre toutes sortes de crimes graves. Fini les Kulunas qui tuent les gens, fini la trahison des militaires et félicitations au président de la République, réagit ainsi Maître Ruffin Louko, avocat au barreau de Kinshasa Matete.
Notre pays connaît une situation spécifique. Il faut rétablir l'exécution de la peine capitale parce que la peine capitale n'a jamais été abolie dans notre code pénal. Dans notre pays, la peine capitale est toujours prononcée depuis plus de 50 ans par notre justice civile et militaire. Pour nous, rétentionnistes, et vous vous rappelez, l'ancien gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, l'avait réclamé à l'époque également, que non, chez nous ici, la guerre ne prendra jamais fait si la peine capitale ne peut pas être appliquée parce qu'il avait remarqué lui aussi que tous ceux qui tirent les gens là-bas sont des repris de justice plusieurs fois, donc des récidivistes. Ceux qui font les rébellions, ce sont les mêmes personne. Il faut donc féliciter le président de la République qui rétablit l'exécution de la peine capitale pour que ces gens-là qui trahissent le pays continuellement en aient plus besoin d'eux et que donc fini les criminels qui défient le pays continuellement, fini les Kulunas condamnés.
C'est un dossier signé Jeff Ngoy. Au Nord Kivu pendant ce temps, cela fait près de 10 jours ce vendredi depuis l'occupation par les rebelles du M23 de l'importante mine des pyrochlores de Loueché. C'est dans la chefferie de Buito, territoire de Rutshuru. Ce site, attribué par le gouvernement congolais à la société minière du Kivu, Somi Kivu, n'est pas exploité depuis plusieurs années. Mais des inquiétudes à la suite de cette occupation par les rebelles se multiplient de plus en plus. Bernard Denyangi.
C'est depuis la nuit du 6 au 7 mars dernier que cette localité de Loueché, près de Kibirizi, en groupement Mutanda, est passée sous occupation des rebelles du M23. Si jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucune preuve attestant son exploitation, plusieurs acteurs locaux deviennent suspicieux. Ces sources parlent déjà de l'exploitation et du trafic frauduleux depuis quelques semaines du coltan et de la cassiterite du site de Rubaya, territoire de Masisi. Elle redoute ainsi une exploitation artisanale de ces minéraux stratégiques de niobium qui renferme le site de Loueché. Il faut rappeler que la mine de Loueché est l'un des gisements de pyrochlore ou minéraux de niobium les plus importants au monde. Cette mine est plus souvent impliquée dans des violences liées aux conflits armés dans la région. Son exploitation est aux arrêts depuis plus de 10 ans à la suite d'un conflit opposant la Somi Kivu au Kral Metal Congo. Cette dernière société avait acquis le site pendant la rébellion du RCD en 2000. Le site a changé plusieurs opérateurs avant d'être réattribué à la Somi Kivu vers 2009. Mais jusqu'à présent, il n'est toujours pas exploité. Goma, Bernard Denyangi, Radio Okapi.
Restons au Nord Kivu, où au moins 2 personnes déplacées ont perdu la vie et au moins 15 autres ont été blessées à la suite des dégâts causés par une pluie diluvienne jeudi soir dans le site des déplacés de Boulengo. C'est dans le quartier Lac Vert, à l'ouest de la ville de Goma. Les premières enquêtes menées par les sources au sein du comité local des déplacés révèlent qu'une importante partie des dons humanitaires a aussi été détruite. Il s'agit entre autres de quelques tonnes de farine de maïs. Cela en plus des maisons de fortune et autres biens déplacés emportés par des vents violents. Une délégation du gouvernement provincial s'est rendue ce vendredi matin dans ces sites pour évaluer la situation. Comme dit dans les titres, c'est désormais officiel. Le contrat renégocié entre la RDC et le groupement d'entreprises chinoises a été signé par toutes les parties hier à la Cité de l'Union africaine, ici à Kinshasa. C'était en présence du chef de l'État. Cette nouvelle version consacre une hausse de l'enveloppe destinée aux infrastructures qui passe de 3 à 7 milliards de dollars américains. Cette nouvelle version marque ainsi le 5e avenant de cette convention de collaboration conclue en avril 2008 entre la RDC et le groupement d'entreprises chinoises GIEC. Cynthia Bachizinabiza pour les détails.
La version New Look de cette convention, communément appelée contrat chinois ou encore contrat sicomine, rétablit un équilibre en le rendant réellement gagnant-gagnant à en croire les autorités de la RDC. Pour le ministre d'État en charge des infrastructures, Alexis Guissaro, environ 5000 km de routes seront construits sur une période de 15 ans. Il y aura 324 millions de dollars américains pour les infrastructures routières par an, ce qui permet donc de construire 400 km la l'année. Le début des travaux est annoncé dans un délai d'un mois à Kinshasa, dans le Grand Équateur, au Kasaï oriental, dans le Haut-Lomami et au Lualaba. Parmi les projets retenus à Kinshasa, c'est entre autres une route qui quittera la commune de la Gombe pour longer le fleuve Congo jusqu'à l'aéroport international de Njili. Quelques exemples à l'intérieur du pays, il y a notamment la route Mbujimayi-Kabinda-Kindu-Bukavu-Goma ainsi que la route Akula dans le Grand Équateur. Cet avenant consacre également la participation de la RDC dans le capital de la Sokoïdro, barrage de Busenga, en raison de 60% de départ pour les Chinois et 40% pour la RDC.
Cynthia Bachizi Nabizana. Pour rappel, le chef de l'État avait fortement critiqué l'ancienne version des contrats jugés défavorables à la RDC. Dans la foulée, dans un de ses rapports publiés en février 2023, l'IGF mettait en évidence d'importants décaissements effectués en faveur des entreprises chinoises établies en RDC, mais de très faibles investissements en infrastructures au profit du pays. Direction la province du Tanganyika, où une tête d'érosion menace la prison centrale de Kalemie depuis quelques semaines. C'est confié ce jeudi à Radio Okapi. Le directeur de cette maison carcérale craint que cette érosion n'atteigne le mur des clôtures de la prison si les travaux ne sont pas entrepris en urgence. Ainsi, il lance un cri de détresse aux autorités provinciales du Tanganyika. Basile Kafuku Lumbwe, directeur de la prison centrale de Kalemie, explique au micro de Paul Munanga.
Il y a une forte érosion à la prison, ça c'est un grand risque. C'est une menace de 3 semaines à peu près. Vous savez, le pont est resté en l'air. Si vous essayez un peu de remarquer, l'érosion est en train d'attaquer maintenant la fosse septique. La fosse a été construite par la MONUSCO. Donc la MONUSCO a mis la main sur la poche pour construire cette grande fosse septique. Aider aussi les détenus qui sont à l'intérieur de cette détention. Et il nous reste presque 10 mètres d'ici vers le mur de la prison centrale. À l'intérieur de la prison, il y a des bandits mais armés. Si là, le mur s'écroule, il y aurait une évasion vraiment catastrophique et les bandits vont se éparpiller au niveau de la ville de Kalemie. Et vous verrez, nous ne serons pas libres, nous, en tant que population de cette ville de Kalemie. Nous demandons à la hiérarchie de la province donc de trouver une solution rapide, puisque avec de fortes pluies, en tout cas, la fosse septique va partir et le mur va tomber bientôt là.
Cette autre nouvelle sur Radio Okapi. La Commission nationale des victimes du Congo, ANVC, a salué ce jeudi l'initiative du Fonds national de réparation des victimes, FONAREV, qui depuis quelques jours identifie des milieux ayant connu des violences graves en RDC. Le président de l'ANVC, Mira Mulamba, a exprimé sa satisfaction dans un entretien accordé aux médias ici à Kinshasa. Il a ainsi encouragé le FONAREV à aller jusqu'au bout de sa démarche pour permettre aux différentes victimes des violations des droits de l'homme de bénéficier des réparations adéquates. Mira Mulumba est au micro de Blaise Ndongala Mayanda.
Ces équipes, elles avaient pour mission de pouvoir procéder au monitoring de sécurité, c'est-à-dire le cadre que doivent abriter, n'est-ce pas, le centre d'identification pour écouter les victimes. Ça doit être des cadres qui doivent absolument répondre aux normes qu'il faille pour garantir aussi la sécurité de toutes ces victimes qui viendront pour être écoutées et pour voir dans quelle mesure demain l'issue de ce qu'ils feront comme déposition fera l'objet, bien entendu, de différentes réparations qu'on pourra leur apporter. Il est aussi question de pouvoir certifier les incidents. Il est vrai qu'au lendemain de 1993, plusieurs provinces ont connu plusieurs affres et que les informations à possession, n'est-ce pas, du Fonds national des réparations étaient en tant que telles, mais il était aussi plus impérieux pour que l'équipe de FONAREV se déploie sur terrain pour certifier absolument les informations liées aux incidents assimilables aux violations systématiques des droits de l'homme.
Parlons de l'affaire pollution de l'environnement au quartier Manomapia à Fungurume qui aurait fait des victimes dans la communauté. Le parquet général de la cour d'appel du Lualaba a ouvert les enquêtes pour établir les responsabilités. À ce sujet, le réseau de protection des défenseurs des droits de l'homme, GROA, groupe Ukingo wa Watetezi, exprime sa satisfaction et encourage la justice à aller jusqu'au bout. Toutefois, il fait un certain nombre de recommandations aux uns et aux autres pour un aboutissement heureux de cette démarche. On écoute Jonas Mulumba, le point focal des Groua dans le Grand Katanga, au micro de Jean Gandou.
cette ouverture des enquêtes ne soit pas une occasion pour que des activistes des droits de l'homme ou toute autre personne qui s'est investie pour lancer les alertes par rapport à cette affaire fasse l'objet de menaces. Raison pour laquelle le réseau a formulé un certain nombre de recommandations, notamment à Madame le gouverneur de la province du Lualaba, pour que puisse veiller à la sécurité, à la protection des défenseurs des droits de l'homme par rapport à cette affaire, et ce, conformément à la loi pourtant protection et responsabilité des défenseurs des droits de l'homme en RDC, procureur général près de la cour d'appel du Lualaba, de mener ces enquêtes en toute indépendance et toute impartialité, à l'entreprise de faciliter l'accès au parquet général ou à toutes les parties qui seront impliquées dans une descente qui pourrait être programmée par le parquet général, à tous les endroits qui sont supposés être la source de pollution, et à la population de faire confiance à la justice à travers sa collaboration afin que leurs prétentions soient connues, surtout les personnes qui seraient affectées par ce cas de pollution.
Actualité internationale.
Les Guinéens, déçus par les gouvernements du nouveau Premier ministre Amadou Ba Houry, dévoilé mercredi 13 mars, alors que ces derniers avaient promis le 8 mars que l'exécutif comprendrait au moins 30% des femmes, et ne sont finalement que 6 parmi les 29 ministres, soit 20% de l'équipe. Une déception pour des groupes et associations.
L'invité.
Le service de la lutte anti-mine des Nations Unies UNMAS vient de mettre en place le tout premier centre de formation à la matière en RDC. Ce centre est installé à Beni, considéré comme épicentre des accidents et incidents liés aux engins explosifs dans le pays. Quel est l'objectif de ce centre et comment va-t-il fonctionner? Jean-Denis Soki, chef de programme Action Mine en RDC, explique dans cet entretien avec Sadiki Aboubakar.
Jean-Denis Soki, bonjour.
Bonjour monsieur.
UNMAS vient de mettre en place un centre de formation à Beni. À quoi ça va servir concrètement?
C'est un centre de formation qui a comme objectif d'accompagner nos partenaires de la PNC et FARDC dans le domaine d'intervention d'UNMAS, plus précisément en matière de la capacité nationale pour contrer les risques représentés par les engins explosifs improvisés. C'est-à-dire dans ce centre, on va focaliser sur trois formations. Le premier, c'est sur l'investigation post-explosif. Il y aura aussi un module sur la recherche et détection des engins explosifs improvisés. Et le troisième, c'est sur l'éducation aux risques liés à ces engins.
Et quels sont les avantages à avoir ces centres? Parce que depuis toujours, UNMAS renforce les capacités, notamment des FARDC et des PNC dans la région de Beni.
Je pense que ce qui est différent par rapport à ce qu'on faisait avant, c'est que cette fois-ci, on va voir ces centres au niveau national. Avant, on accompagnait nos partenaires nationaux, plus précisément les centres congolais de lutte anti-mine en formation, mais à l'étranger. Alors, si vous voyez le coût lié à l'envoi d'un seul agent ou bien opérateur à l'étranger pour être formé par rapport au coût, ça coûte de faire venir un expert de l'étranger puis former, voilà comme on le prévoit, une quinzaine de personnes. C'est beaucoup plus rentable de maintenir l'expertise au niveau national et faire venir des experts de l'extérieur et en même temps appliquer l'approche de formation des formateurs. Donc bref, c'est pour assurer une meilleure continuité des activités.
Donc, vous voulez dire que c'est le tout premier centre de formation en lutte anti-mine que UNMAS met en place en RDC.
Exactement. C'est ça en fait l'objectif. C'est d'avoir un centre d'excellence national. Et notre espoir, c'est qu'après le départ de la MONUSCO, que ces centres soient intégrés par soit l'armée ou bien la police et qu'on maintienne le même niveau très ambitieux par rapport à la qualité de formation, mais aussi au matériel, etc., qui vont avec la partie théorique.
Et quelle est l'opportunité de former les FARDC, la PNC ou d'autres partenaires en matière de lutte anti-mine dans la région de Beni particulièrement?
Beni reste quand même l'épicentre national par rapport aux accidents ou bien aux incidents liés aux engins explosifs improvisés. Les statistiques sont très claires. Au-delà de 80 ou même 90% d'incidents se produisent ici à Beni, raison pour laquelle on a proposé d'installer le centre ici. Mais je pense qu'à la longue, on va aussi essayer d'implanter une telle structure à la partie ouest du pays.
Je vois le centre est équipé de beaucoup de matériel didactique. Est-ce que cette formation qui paraît tout de même d'abord théorique, sera accompagné de formations pratiques? Si oui, dans quel cadre?
Effectivement, en fait, les matériels que vous avez vus à la salle de formation, d'abord, je dois vous rassurer que ce sont des matières inertes, donc il n'y a pas de charges explosives dedans. Ce sont des mortiers, des bombes, des roquettes, etc., qu'on a récupérées, mais dans lesquelles on a enlevé tout ce qui peut détonner. Donc, c'est pour quand même que les stagiaires voient comment les objets se présentent au lieu de se référer seulement au matériel théorique dans les livres. Donc, ils vont toucher, ils vont sentir le poids que représentent ces matériels-là. Ils vont comprendre un peu leur composition physique. Alors, l'objectif qu'on a, c'est bien sûr de donner un certain minimum de maîtrise théorique, mais pour que ça ne reste pas que les théories, il faut l'appliquer. Alors, nous avons identifié un terrain qu'on prévoit pour la simulation des opérations. Donc, on va monter quelques huttes, on va en fait essayer d'imiter un village typique africain dans lequel on va placer des bombes, etc., que les stagiaires vont identifier et chercher à démonter. Donc, c'est de cette manière qu'on va appliquer la partie pratique de la formation.
Est-ce que la formation sera permanente, genre classique, ou bien ce sera une formation ponctuelle? Comment ça va s'organiser?
Nous allons le faire à plusieurs phases. Dans la première phase, on prévoit 15 stagiaires que les FRDC, plus précisément Sokola 1, va nous proposer. Il y aura une évaluation initiale pour voir si les candidats ont la base nécessaire pour suivre cette formation.
Est-ce que ceux qui vont passer par ces centres, après, on peut les considérer comme des experts en matière de lutte anti-mine?
Experts, ça serait un peu trop dit. Je pense que pour le moment, ce qu'on cherche, c'est d'abord de rendre les partenaires nationaux capables de se protéger eux-mêmes et aussi faire quelques interventions ponctuelles, quel que soit comme résidu explosif des guerres, qu'on soit qualifié pour le détruire.
Jean-Denis Nsoki, merci.
Merci à vous, monsieur.
Notre invité, Jean-Denis Nsoki, était interrogé par Sadiki Aboubakar. Par ici, nous mettons un terme à ce journal, coordonné et supervisé par Jacques-Yves Molima Aouta et mis en onde par Jean-Noël Mokondo-Yogo. Merci de l'avoir écouté et de le retrouver sur notre site internet www.radiokapi.net.